Bonsoir, c'est le magazine sur Radio B, un magazine littéraire, mais pas seulement. Ce soir, il sera également question d'histoire et d'une page du monde bien sombre, celle de la Deuxième Guerre mondiale. À travers deux romans policiers sortis aux éditions Le Diamant de la Vouivre dans la collection Les Couloirs du Temps, où les victimes, deux vieillards, une femme et un homme, détiennent un secret qui en dérange visiblement plus d'un. D'un côté, L'inconnu de la rue Mercière, une enquête du commissaire Valenbois et de l'adjudant Delpieri qui se déroule principalement à Lyon. De l'autre, La Madeleine des Clermont en savait trop, une enquête du commissaire Bardet et de l'adjudant Delpieri qui se passe à Foissia. Alors deux romans qui nous feront à la fois voyager dans le temps et en France, mais aussi en Europe. Et que l'on pourra retrouver au salon Attigné en livre qui aura lieu le dimanche 8 octobre 2023 à l'espace Salvert à Attigné. Pour nous en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir leur auteur, le romancier Attignati, Robert Ferrari. Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous étiez venu à notre rencontre il y a un an, hein, c'était le mercredi 5 octobre 2022, à l'occasion de la sortie le 15 mars 2022 de votre roman « La soie de la vengeance ». Comment a-t-il été reçu ? Il s'est bien vendu ?
Il s'est bien vendu, oui, il a été bien reçu. J'ai eu pas mal de retours positifs, donc ça fait toujours plaisir.
Ouais. Alors, sorti initialement aux éditions Mabosa, on le retrouve désormais aux éditions Le Diamant de la Vouivre.
Pas encore.
Pas encore. Ça va pas tarder.
J'écoule les stocks sous le nom de Mabosa.
D'accord.
Mais il est déjà corrigé pour sortir sous le Diamant.
D'accord. Alors, je disais, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, disait Charles Guillaume Étienne dans la pièce Bruit et Palapra. Vous ne vous seriez pas approprié ce bref proverbe par hasard ?
Non, pas vraiment, mais bon, on est forcé de constater que les petites maisons d'édition ne font pas forcément le travail.
Quoi ?
Le travail qu'on attend qu'ils fassent.
Voilà, mais par bon. Faute de moyens, par faute d'envie, par faute de...
Je ne sais pas trop, mais bon...
Ouais. C'est un constat. Voilà.
Les grandes maisons d'édition ne prennent pas de nouveaux auteurs, ou alors il faut en faire disparaître un ou deux.
Mm-hmm.
Mais bon,
alors comment,
c'est répréhensible.
Alors comment fait-on pour être à la fois romancier et éditeur de ces romans ?
Ben, c'est ce qu'on appelle de l'édition à compte d'auteur, c'est-à-dire que on écrit, on corrige, éventuellement on fait corriger par deux, trois amis... on utilise aussi peut-être le correcteur de Word, mais là, il faut faire attention parce qu'il comprend pas tout.
Puis maintenant, c'est LibreOffice, c'est gratuit.
Oui.
Hein?
Et après, il suffit de trouver un imprimeur qui fait le travail, qui imprime le nombre d'exemplaires qu'on lui demande et on fait un chèque. Et après, on se débrouille pour rentabiliser la facture.
Ouais. Donc, pour vous, qui a le droit de regard sur vos écrits, alors ? Il y a des personnes en particulier qui vous relisent ?
Si, j'ai des copains qui relisent.
Ouais.
Personnellement, je relis jusqu'à 10 fois, 10, 12 fois le
manuscrit. Ouais, c'est mieux de faire d'abord un regard extérieur, bien sûr.
Mais quand je relis, moi, c'est embêtant, parce que soit j'en ajoute, soit j'en enlève, donc...
Ouais.
D'autres idées viennent en lisant, et mm-hmm. Voilà quoi.
Ouais. Bref, peut-on être juge et parti ?
Oh oui, pourquoi pas.
Oui.
En littérature, oui, mais ailleurs, peut-être pas.
Alors, votre venue à Radio B, donc le 5 octobre 2022, je disais, vous nous aviez annoncé être sur l'écriture de deux romans. Donc le premier, c'est L'inconnu de la rue Mercière, est sorti le 16 décembre 2022 aux éditions Le Diamant de la Vouivre. Alors, pouvez-vous nous planter le décor et nous résumer l'intrigue de ce polar ?
Eh bien, la rue Mercière, située à Lyon... est une rue où on a actuellement un nombre presque incalculable de bouchons lyonnais, dont certains ne sont pas vraiment des bouchons, c'est des tambouilleurs, si on peut dire,
ouais.
Comme diraient les vrais bouchons. Et au milieu de ces bouchons, j'ai imaginé un restaurant grec, pourquoi pas ?
Oui, oui, oui.
Qui est situé à côté d'une allée montant dans les étages. D'une vieille bâtisse avec escalier ancien, enfin bref, tout. Et un des gars du restaurant, un matin, va voir le patron en disant « Écoutez, patron, c'est bien, mais ça sent de plus en plus mauvais dans ce foutu escalier. Il y a quelque chose qui se passe. » Alors ils vont voir. Et puis ils s'aperçoivent que ça vient du premier étage. Derrière une porte en chêne, ils ont l'impression que l'odeur vient de là. Donc ils appellent les pompiers. Et ils découvrent un vieillard qui a au moins 90 ans, attaché dans son fauteuil, et agréablement assassiné, si je puis dire. Voilà. Et à partir de là, c'est le commissaire Valenbois et son équipe qui débarque de Marius Berlier, puisque le poumon policier de Lyon maintenant est à Marius Berlier, et qui il faut enquêter, savoir qui c'est. Il y a bien un nom sur la porte, mais il s'aperçoit vite que c'est pas son nom. Il est connu dans un autre resto, puisqu'il faisait, il mangeait, enfin il se faisait monter à manger par les gens du resto grec. Et puis, de temps en temps, la moitié de la semaine, il est dans un autre au coin de la rue. Et au coin de la rue, il le connaît sous un autre nom. Et il y allait pratiquement jamais, mais il se faisait livrer. C'est-à-dire que le deuxième resto livrait au premier, et le premier lui montait le plateau. Bref, ça c'est pour l'anecdote. Oui, et donc, qui est ce type-là? D'où il sort? Qu'est-ce qu'il fait? Et bon, il a de fil en aiguille. Il y a une... je ne peux pas en dire trop, mais enfin, il y a un appel à témoins qui est envoyé à tous les postes de gendarmerie, à tous les postes de police de France et même de police municipale. Et le père de l'adjudant Del Pierri, il est responsable de la brigade de Morvel.
Morvel, gendarmerie. Ouais.
La gendarmerie, oui, ouais. La brigade de gendarmerie de Morvel. Ouais. Son père un soir lui téléphone en disant dis donc, je suis allé chez tes collègues de chez nous, là-bas il habite dans les Vosges, et j'ai vu un appel à témoins avec la photo d'un gars, et ce gars je le connais, voilà. Il était dans le camp de concentration où il m'avait embarqué, voilà. Entre autres Auschwitz, hein, il était là-bas. Où il a survécu parce qu'il était bon cuisinier, donc chef de camp a besoin d'un... Bon, bref. Voilà. Ça, c'est dans un précédent bouquin, dans le Gardien d'Osiris, où je raconte ça.
D'accord.
Et puis, à part là, ça va. Et puis, bon... Oui, l'adjudant de Montréal, sur la liste des suspects, etc. Et on avance là-dedans.
Voilà. Qui est ce vieillard? Voilà.
Qui est ce vieillard?
Qui est ce vieillard? Voilà. Donc, le roman débute par la découverte d'un vieil homme assassiné chez lui, rue Mercière à Lyon. Alors, pourquoi avoir choisi cette rue désormais piétonne, devenue un des hauts lieux touristiques institutionnels de la cuisine lyonnaise? Pourquoi cette rue?
Pourquoi? D'abord parce que je suis né à Lyon, donc c'est un clin d'œil.
Il y a un paquet de rues à Lyon.
Oui, oui.
Et pourquoi celle-là, précisément?
Bon, parce que j'ai un estomac qui aime bien la bouffe lyonnaise. Mais c'est, même si ça me joue des tours au niveau des artères, après, mais ça, c'est autre chose.
Ah, ben ça, c'est...
Et je voulais que le commissaire Valenbois soit sur le coup. Mm-hmm. Parce que c'est dans ce bouquin qu'ils apprennent à se connaître avec Del Pierri. Et après, ils vont... C'est pour ça qu'après, dans l'ordre chronologique, il y a le bouquin sur Brou, que j'ai refait puisque il est plus chez Mabosa, et il y a le bouquin sur la soie que j'ai aussi refait avec Valenbois.
Donc
les prochains sont qui se passeront dans la région où il interviendra. Voilà.
D'accord. N'en disons pas plus. N'en disons pas.
Non, non.
Ouais, donc, à lire Wikipédia, donc, la rue Mercière est une des rues les plus anciennes de Lyon et une histoire, elle toute seule, parce qu'il n'y a pas que la bouffe. Hein,
oui.
Il n'y a pas que la bouffe
oui,
à Lyon.
Enfin, d'ailleurs, oui. dans quelques salons où je l'ai présenté au niveau, disons, lyonnais, j'ai eu des éclats de rire en me disant ouais, rue Mercière, on sait bien, il y avait les dames qui se promenaient. J'ai dit non, c'est aujourd'hui, c'est pas il y a 40 ans.
Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est une histoire, elle toute seule. C'est l'histoire de Lyon, elle toute seule, cette rue.
Bah, c'est le vieux Lyon, quoi. Il n'y a pas qui s'est fabriqué petit à petit, quoi.
Ouais. Justement, la rue Mercière, elle évoque quoi pour vous? Rien de particulier?
Non, rien de...
Même pas dans votre jeunesse
Non.
Ah non, mais je parlais pas des dames. Non.
Je fréquentais pas.
Non, ça a pu avoir des souvenirs particuliers avec cette rue, quoi. Non.
Bon. Pas particulièrement, non.
Et est-ce que vous avez eu besoin de retourner dans la rue Mercière pour écrire votre roman?
Non.
Vous la connaissez par cœur?
J'ai une fille qui a habité rue du Temple à Lyon, qui va de la place des Jacobins jusqu'à la Saône. La rue prend pratiquement à l'entrée de la rue Mercière, donc c'est souvent qu'on allait casse-croûter dans un bouchon, quoi. Ouais. Dans un vrai bouchon.
Donc,
je ne citerai pas de nom pour ne pas fâcher les autres.
Non. Donc, vous le dites dans votre quatrième de couverture, la rue Mercière est la voie historique où la gastronomie est la reine des lieux. On est à Lyon et on dit que c'est la capitale de la gastronomie française. Est-ce usurpé aujourd'hui où on mange mieux à Lyon qu'à Bourg-en-Bresse?
Oh, je crois qu'on mange mieux, oui, quand même.
À Lyon?
Parce qu'il y a plus de choix.
Ah ouais.
Il y a plus de restos. Et puis bon, un vrai bouchon, c'est fantastique, quoi.
Ça vaut pas un bon petit resto gastro à Bourg-en-Bresse?
C'est pas la même.
La même qualité?
Pas la qualité. À Bourg, on mange bien à Bourg.
Ben oui, quand même.
Faut pas. Allons.
Vous voulez vous l'entendre dire, c'est bien. C'est pour moi,
mais c'est pas la même.
Pour moi, bouchon lyonnais, c'est pas forcément les signes de qualité, donc c'est pour ça.
Je dirais que c'est pas la même nourriture.
Ouais, voilà.
Mm-hmm. Bon, à Lyon, faut pas avoir peur des calories, hein. Déjà.
À Bourg-en-Bresse, c'est que la crème non plus. Si on veut, on trouve ce qu'il faut aussi. Bien riche aussi, hein.
Oui.
Bah oui, la Bresse.
Oui. Hein? Bah la Bresse m'a coûté un arrêt cardiaque, hein. Bon.
Alors, donc, dans l'inconnu de la rue Mercière, on se balade autant dans le passé que dans le monde, finalement. Mmh. Hein, dans le monde, carrément. C'est un peu votre marque de fabrique, vous traversez le temps.
Oui, je pars sur cette voie maintenant. Disons qu'un fait historique, alors avéré ou pas, hein, mais bon, dans Amour à mort à Brou, c'était la rupture entre Marguerite d'Autriche et le premier architecte de Brou. Bon, les deux étaient, il faut le dire, les deux étaient deux têtes de cochon. Lui, parce qu'il était très imbu de lui-même, et bon, parce qu'il était bon, hein, pas de souci. Et puis elle, parce que bon, pour résister à tous les souverains mâles de l'Europe, il fallait déjà être un peu Madame Thatcher sur les bords. Bon, donc ils ont réussi à se cartonner, puis bon, elle l'a viré, on peut pas dire autrement, pour prendre le Hollandais Van Bogen. Voilà, donc je me suis dit, là, tiens, c'est intéressant.
De traverser le temps.
De traverser le temps, ouais. De les faire intervenir dans le bouquin pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui.
Ouais, donc c'est...
Dans l'inconnu, c'est ça, quoi.
Puis dans celui d'après aussi.
Oui.
Ouais.
Bon, c'est pas aussi loin que Marguerite d'Autriche, mais ça aurait pu, à la limite. Hein.
Oui, mais bon, l'histoire... Ouais.
Donc j'aime bien partir maintenant d'un fait historique, ou que ça rappelle un fait historique qu'on va voir, pour voir si par hasard c'est pas jumelé, si je puis dire. Mm-hmm. Et ça permet aussi de donner des renseignements sur ce qui s'est passé dans le département, quoi.
Alors, traverser le temps demande beaucoup de travail de recherche, j'imagine. Lorsque vous faites voyager vos personnages, vous vous rendez forcément dans tous les endroits, les villes et les pays qu'ils empruntent?
Non, il y a de très bons guides.
Ah, d'accord.
Par contre, dans le...
Vous allez où, quand même?
Dans
la poissière, quand même, oui.
Dans l'inconnu de la rue Mercière, vous avez le flic polonais, qui est le cousin, par inadvertance, de Del Piri. Dans le bouquin où je les présente, le truc d'Osiris, c'est le guide Hachette de Varsovie qui m'a servi, quoi.
D'accord.
Et puis bon, des trucs glanés sur Internet, sur les villages traversés.
Alors, vous allez où alors au plus près, quand c'est prêt, vous y allez quand même à Foissia, vous êtes allé, enfin, on en parlera après.
À Foissia, mais... oui, pas de souci.
Ouais, vous êtes allé. Alors, dans l'inconnu de la rue Mercière, on va faire un tour à Morvel, puisque c'est la ville où se trouve la gendarmerie de la Judan Del Pierry. Mmh. Dans votre dernier roman, publié un peu plus de 6 mois après, le 18 juillet 2023, plus exactement, toujours aux éditions Le Diamant de la Vouivre, on retrouve l'adjudant Del Pierry aux côtés de la gendarmerie de Morvel et le commissaire Bardet du côté du commissariat de Bourg-en-Bresse, de police de Bourg-en-Bresse. Oui. Alors, que se passe-t-il du côté de Foissia et qui est cette Madeleine ?
Ben, la Madeleine, c'est une vieille dame.
Encore une. Après un vieillard, une vieillarde.
Plus fréquentable que l'inconnu de la rue Mercière.
On ne sait pas.
Elle est assassinée bizarrement dans ce qu'on appelle largement les bois de but ou de but au choix, dont on n'a pas encore trouvé l'origine du nom, on ne sait pas trop. Et à partir de là, il faut trouver pourquoi, évidemment. Donc, il remonte dans sa vie. Et elle est la fille célibataire. Elle est toujours restée célibataire. La fille, d'un couple dont le mari ramassait les bidons de lait dans les fermes et est parti... a été mobilisée en 1940 pendant la drôle de guerre. Et après, quand il est revenu, plutôt que d'obéir à Vichy, il est parti dans le maquis.
Voilà.
Pratiquement tout de suite, le moment où c'était des gars comme ça, perdus dans la nature, qui n'étaient pas bien, pas organisés du tout, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire, et autres.
Voilà. Alors, on est en plein dans le roman de terroir, encore plus que d'habitude, puisque le roman se déroule majoritairement dans la campagne bressane et à Foissia en particulier. Mmh. Alors, pourquoi un tel choix ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette commune rurale ? Vous l'avez pas choisi par hasard, quand même.
Je n'ai pas choisi par hasard, parce que la famille de ma femme est originaire de Foissia.
Voilà. Donc, c'est pas un hasard.
Clin d'œil. Donc, près de Foissia, mais sur la commune de Foissia, près du village, un lieu qui s'appelle le Bourbouillon, qui était un lieu de pèlerinage inventé, mais dans le sens de mise en place, de trouver par une dame de Foissia. Où les gens sont finalement allés en pèlerinage parce que c'est là qu'elle emmenait les enfants du patronage et qu'après elle faisait de la réclame, mot mal choisi, pour que les habitants donnent de façon à faire des colis, à envoyer aux prisonniers, aux premiers prisonniers faits par les Allemands pendant la guerre.
D'accord.
Donc voilà.
Donc comme à votre habitude, le roman fait des allers-retours entre le présent et le passé. Cette fois, donc, nous remontons en 1940, une période trouble de la France. La résistance s'organise face à l'envahisseur allemand et la collaboration du maréchal Pétain. C'est une période que vous aimez bien traiter et ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qui vous attire dans cette France de la Deuxième Guerre mondiale ? Vous ne l'avez pas vécu ?
Non. Suite à ce que me racontait mon père, qui lui l'a vécu de l'intérieur, si je puis dire, parce qu'il a été réfractaire au chantier de jeunesse, donc il a été embarqué au Sisek du côté de la Pologne pour travailler dans les stalags. Mais bon, je sais pas, quand j'aborde cette période, ça me trouble, tout simplement. Alors je sais pas, peut-être que si on est comme les chats, qu'on vit plusieurs vies, peut-être que j'ai eu une vie qui s'est déroulée à cette époque-là, j'en sais rien. Et c'est vrai que ça me chamboule, quoi.
Ah ouais.
Ouais, c'est comme ça.
Vous êtes
proche.
Des gens qui ont connu cette
période-là,
avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc la France de la Deuxième Guerre mondiale a été très compliquée pour ses habitants. Il fallait faire des choix à l'époque, ou ne pas en faire du tout. Vous auriez, vous, en plus c'est une question que c'est impossible de répondre, vous auriez fait quel choix, vous, entre 39 et 45? Mais bon, après coup, c'est...
J'aurais certainement fait partie des fusillés, hein, si je puis dire. Ceux qui ont finalement été fusillés, massacrés par la bande à Barbie.
Les résistants, vous voulez dire?
Ouais. Là, connaissant les chromosomes de la famille, là non. J'aurais pas...
Même si c'est facile, ou c'est facile de le dire après coup,
tant
qu'on l'a pas vécu.
Même encore maintenant, quand il y a des reportages, ne serait-ce que la guerre en Ukraine, des machins comme ça, ou d'autres, où il y a des signes de...
L'injustice.
Vous avez un camp qui sème l'injustice autour de lui. J'ai qu'une envie, quoi, c'est de faire partie des brigades internationales qui sont parties en Espagne contre Franco. Bon, plus l'âge que j'ai, ça serait risqué. Voilà, quoi.
Alors, vous n'avez donc pas connu la Deuxième Guerre mondiale. J'imagine que vous avez entendu vos parents et vos grands-parents en parler.
Pas beaucoup.
Ah, pas beaucoup.
C'est pas des sujets qu'ils abordaient beaucoup.
Ah ouais.
Bon.
D'accord.
Mes grands-parents n'en parlaient pas non plus. Mais bon, je sais que mon grand-père paternel a été gazé en 14-18, quoi. Il en est mort en 1927 ou 28.
Mais je parle de la période de la Deuxième Guerre mondiale.
Mon père abordait pas beaucoup le sujet. Parce que bon, il devait être dans un coin quand même assez dur, quoi.
Alors, la victime assassinée avec beaucoup de sauvagerie, c'est Madeleine Bouillot, qui habitait un lieu dit donc les Clermont à Foissia, une femme qui a fait front toute sa vie face à l'adversité et la dureté de la vie. C'était important pour vous de choisir d'abord une femme?
Oui, pourquoi pas. Oui. Parce que c'était pour parler dur, les mecs s'en sortaient, parce que c'était des mecs, tout simplement. Et les femmes, même à cette époque-là, derrière leur fourneau, quoi, point final. Mm-hmm. Puis elles fabriquaient les gamins.
Voilà.
Qu'on allait tuer à la prochaine guerre.
Ouais.
En gros, c'était ça, quoi.
Ouais. Donc les femmes ont leur place dans toutes les révolutions, dans toutes les, dans toutes les guerres, mais elles ne sont pas reconnues, vous le dites, à leur juste valeur. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles ont été l'égale de l'homme, puisqu'elles étaient à la fois femmes, épouses, mères, travailleuses et résistantes à leur façon. Il était quand même temps de leur donner le droit de vote, non?
La France était en retard.
Même par rapport à la Turquie, il y en a qui en pensent du tout du mal de ce pays-là. Ils étaient en avance par rapport à nous.
Ah oui, mais l'Atatürk, c'était quand même quelque chose. C'était un type bien, quoi.
Nous, on a eu. Après la guerre, donc ça veut dire. Oui, donc le droit de vote. Oui, en fait, c'est la reconnaissance de la femme, quand même.
Oui. Puis c'était temps, quand même. Parce que bon.
Donc à l'époque, la vie des campagnes était difficile, et puis les guerres de clochers n'étaient pas rares, j'imagine. Sûr, déjà matin, n'en parlons pas. Les jalousies entre les voisins non plus. On disait que la délation était un sport national à cette époque.
Même avant. Il y a eu un certain maréchal de Morvel, Louis XIV, qui a été envoyé par Louis XIV dans le sud. Pour réduire à zéro les fameux camisards. Et il avait mis sur place, là-bas, tout un réseau de lettres anonymes, de dénonciations anonymes. Et il y a un volume très important avec des lettres qui ont été reproduites. Ouais. C'est aussi hallucinant.
Donc, cette délation, vous en trouvez encore des restes, vous, plus de 70 ans après, dans les villes et les campagnes?
Des réseaux de délation?
Pendant le Covid, il y en a qui auraient bien aimé, non? dénoncer les autres. Enfin, il y en a qui l'ont fait, d'ailleurs.
Ouais, c'est possible. Bah, bon,
c'est toujours un sport national.
Ouais, c'est un sport national, malheureusement.
Ouais. Après, il n'est pas que français.
Oui,
il est mondial. Donc, vous vous êtes appuyé sur des faits historiques, en partie vrais, pour écrire votre roman. Et pourtant, vous précisez en première page que, je cite, hein, « Toute ressemblance avec des personnages, des patronymes ou des faits actuels et ou passés identiques à ceux décrits ou intervenant dans cette histoire ne serait bien sûr que fortuite et indépendante de la volonté de l'auteur. Hein, » Je vous cite. Hein.
Oui.
Hein, « Depuis que vous écrivez, vous avez déjà eu des soucis avec des personnes qui croyaient se reconnaître, que ce soit des habitants, des maires ou des députés ?»
Non.
Jamais ?
Non. Juste une fois, une lectrice qui est passée en me disant « Ah bah tiens, je suis dans votre bouquin. » Je ne sais plus qui c'était d'ailleurs. Je dis, ah bon, oui, vous avez mis, je m'appelle exactement comme un des personnages du livre. Ben, je dis, bah alors, c'est embêtant ça, parce que c'est la prochaine édition, je peux changer votre nom. Non, laissez comme ça, c'est bien. Ça me fait plaisir. Bon, d'accord. Non. C'était pas méchant. Hein.
Ouais. Donc. Donc, mais c'est comme bien de justifier le fait que ça, en fait, c'est pas vrai.
Que
ça reste qu'un livre.
Bah oui, ça reste un livre. Oui,
ouais,
oui mais bon.
Toute ressemblance avec des personnes, ouais, c'est vraiment que fortuit.
Non, mais là, j'ai mis un avertissement au début du livre en disant que bon, le maire élu en 1945 ou dans ces eaux-là n'était pour rien, n'était pas du tout du même avis que ceux qui ont, à cette époque-là, semé la panique. Quoi.
Ouais, mais vous le précisez quand même.
Je l'ai précisé quand même.
Ouais. Pour éviter de mettre le doute. Ouais. Donc, l'inconnu de la rue Mercière et la Madeleine des Clermont en savait trop, ont deux points en commun, enfin au moins deux, hein, l'adjudant Del Pierri, et la période traversée, de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Oui, c'est ça. Ce sont presque deux livres d'histoire. En tout cas, ça y ressemble. Et celles et ceux qui dormaient en cours d'histoire vont apprendre des choses. C'est votre côté pédagogue qui ressort, ça.
Peut-être.
Inconsciemment.
Si ça ressort, c'est inconsciemment.
Parce que là, vous racontez comme l'histoire. Enfin, une histoire, mais c'est aussi l'histoire.
Oui, c'est l'histoire.
Ouais. Ouais, c'est votre côté instinct, ça.
C'est une petite histoire dans la grande histoire.
Ouais,
c'est peut-être le côté instinct qui ressort, c'est possible.
Ouais. Parce qu'on y apprend des choses quand même. Enfin, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui dormaient en cours d'histoire, ils y apprennent des choses.
Oui.
Hein? Ou en cours d'histoire. Non, mais pas vous, hein, au collège. Hein.
Non, j'ai jamais dormi en cours d'histoire, moi. Jamais trop ça.
Et vous n'avez pas d'élève qui a dormi quand vous racontiez des histoires d'histoire.
Vous n'avez pas intérêt, là.
C'est moi pédagogue, là.
Bon. Ouais.
Alors, j'imagine que vous êtes dans l'écriture d'un, voire de deux nouveaux romans. Alors, utiliserez-vous à nouveau votre machine à voyager dans le temps?
Oui, tout à fait.
Et si oui, quelle période allez-vous nous raconter? Toujours du côté de Lyon et de Bourg-en-Bresse, par contre? Autant au niveau des lieux que de la période. Alors.
Il y en a un, oui, ça sera un peu. Ça commencera sur Lyon, mais on arrivera vite dans l'Ain. Et la période historique, ça sera les procès en sorcellerie qu'il y a eu dans le département.
Ah.
Voilà. Et puis l'autre. Il y en a deux autres d'ailleurs. Il y en a un qui va se passer à Alésia.
C'est vers Clermont-Ferrand, ça, non? Ah non.
Comment?
C'est dans le Jura ou dans
l'Auvergne? Dans l'Alésia du Jura. L'autre, je ne parle pas du Disneyland de l'autre côté.
D'accord.
Si cher à Napoléon III et à sa noble épouse. Non, dans le Jura, où je me suis permis même. Parce qu'il est en vrac pour le moment. Je me suis permis d'écrire un chapitre perdu de la guerre des Gaules.
D'accord.
Où César raconte qu'ils ont perdu la bataille et puis qu'il est foutu, quoi.
D'accord.
Donc voilà.
C'est encore l'histoire, ça.
Ouais.
Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc les commissaires Valenbois et Bardet et l'adjudant Del Pierri seront toujours des enquêteurs? Ou il y aura des petits nouveaux, des petites nouvelles?
Pour Alésia, il n'y aura que Valenbois. Hein. Et puis les gens du coin, les brigades du coin.
D'accord.
Et pour la sorcellerie, oui, il y aura Valenbois, Bardet.
Voilà, toujours les mêmes.
Puis peut-être Del Pierri, je ne sais pas encore.
Pas de nouvelles.
Non, faut garder. Simenon a gardé Maigret toute sa vie.
Il y a plein d'auteurs qui font une série puis qui changent.
Ouais, on peut.
Qui changent
non, faut pas.
Faut pas.
Non, pourquoi ? Oh non, ça va.
Pourquoi pas ? Mais
ouais.
Bon.
Ouais. Ouais.
Donc, quels ont été les premiers retours des deux derniers romans
votre public la Madeleine, je ne sais pas trop encore, parce que c'est tout neuf.
Oui.
Donc, je
ne
sais pas trop.
Ouais.
Je verrai dimanche à Tignan,
ouais,
comment ça se passe.
Ouais.
Mais l'autre, l'inconnu, bien.
Bien ?
Bien, oui.
Ouais.
Ouais.
Bon retour ?
Oui.
Ouais. Alors, votre roman Amour, à mort, à brou a été revu.
Il a été revu.
Corrigé, augmenté, reformaté avec un nouveau titre.
Et puis,
Meurtre en série pour brou.
Et puis Valenbois qui remplace le héros d'Amour, à mort, à brou. Un nouveau titre, c'est.
Meurtre en série pour brou, non ? C'est ce que j'ai lu, moi.
Meurtre en série pour brou,
c'est
exact.
Ça, hein, ouais.
Tout à fait.
Bien. Alors pourquoi cette nouvelle édition, alors
Parce que, bon, suite avec mes soucis avec l'éditrice, donc, j'étais pas le seul, hein, mais un certain nombre a repris nos manuscrits sous le bras et puis à avoir mis les voiles.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, il fallait. Les trois personnages principaux ne m'appartenaient pas.
Ah.
Ils avaient été créés par un autre auteur il y a quelques temps. Donc, j'ai changé de façon à ne pas avoir d'ennui, quoi, tout
ouais,
simplement.
Alors, votre roman La Madeleine des Clermont, En savait trop, est disponible dans deux lieux différents de d'habitude. Le salon de coiffure Angèle Coiffe et Vivalpe, les deux à Foissia.
Oui.
Hein, vous avez senti un engouement pour votre dernier roman de la part des Foissati et des Foissati
Le salon de coiffure en vend. Beaucoup. Donc voilà. Puis Vivalpe, j'en ai laissé un plein carton. Donc,
ouais. Vous avez senti un engouement du côté de Foissia
Il faudrait que j'arrive à dédicacer à la bibliothèque et ça sera dans l'hiver.
Ah,
non, c'est...
ah oui.
Voilà, ouais, ouais.
Bah, oui.
Sinon, il est à la maison de la presse de Morvel.
Mm-hmm.
Puis la Bourque, on est dans les librairies de Bourque.
Ouais. Alors on parle de livres. Le prochain salon d'Attigna appelé Attigna en livres aura lieu dimanche, le 8 octobre 2023, à l'espace Salvert à Attigna, entre 9h et 18h.
Non-stop.
Ouais, c'est la 24e. Alors, j'ai lu que c'est la 24e édition, c'est ça ?
C'est la 24e édition, en réalité 23e, ouais, parce qu'on enlève l'édition Covid où il a été annulé.
D'accord.
Voilà.
Donc, l'entrée est gratuite.
Toujours.
Ouais. Alors, comment s'est déroulée l'édition 2022, d'abord ? Les lectrices et les lecteurs étaient présents l'année dernière ?
Les lectrices et les lecteurs étaient présents, ça, plus qu'en 2000, plus que l'année d'avant. Mais on n'avait pas encore atteint le niveau d'avant Covid.
Ah ouais.
J'espère que cette année, ça ira, on verra.
Mmh. Alors cette année, comme vous l'annoncez sur votre site internet, hein, plus de 80 autrices et auteurs, donc c'est plus que ça, c'est bon, je ne me trompe pas,
oui.
Ouais, un salon recentré sur ses fondamentaux, des auteurs locaux, pas des odeurs, on n'espère pas. L'Ain, le Rhône, Saône-et-Loire, Jura, 43 nouvelles autrices et nouveaux auteurs, c'est toujours ça,
ouais,
à peu près. Et un renouveau des auteurs de l'Ain.
Oui.
Alors la librairie qui vous a longtemps accompagné ne sera pas présente. Alors qu'est-ce qui justifie tous ces choix, tous ces changements ? Vous aviez besoin de vous recentrer sur le local et pas sur quelques têtes d'affiche qui souvent éclipsent les autres ?
Disons, c'est... D'abord, la librairie m'a dit qu'elle ne voulait pas revenir. Parce que, bon, apparemment, ça ne s'est pas déroulé comme elle le désirait l'année dernière, mm-hmm, au niveau des ventes de livres, tout simplement.
D'accord.
Donc, on a recentré sur les locaux. Quoi. D'abord,
ouais,
les locaux de l'Ain, bien entendu.
Ouais. Ouais.
Ce qui fait que cette année, on a 34 auteurs de l'Ain, dont 16 qui ne sont jamais venus. Je ne sais pas à quoi elles ressemblent, je ne sais pas qui c'est, on verra.
Vous ne les avez pas lus
J'ai que les noms. Hein. J'en ai peut-être lu, c'est possible. Mais, voilà. Au total, on a quand même 42 nouveaux auteurs sur 85 ou 90. Quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est bien.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est bien. Ouais.
Jeune, moins jeune, un peu de tout.
Tous les âges.
Tous les âges.
Tous les,
tous
âges,
les styles.
Tous les styles.
Ouais, ouais.
Sauf la littérature, disons, qui incite à la haine ou la violence, ça c'est non.
Mm-hmm.
Et sauf la littérature érotique, puisque c'est quand même organisé par un sous des écoles. Donc, on n'a pas les moyens de
faire des choix.
Ouais, faire des choix. Ouais.
Hein.
Mais pourtant, les pages érotiques de Victor Hugo valent le détour.
Bon, Comme quoi. Hein,
comme quoi. Comme quoi
ouais. Alors, un auteur comme Antoine Renan, à la fois local et puis tête d'affiche, aurait sa place au Salon du Livre.
Oui, mais bon...
C'est trop compliqué, là.
Non, c'est pas ça.
Non. En plus, il sort son bouquin. Il sort son bouquin le 12 octobre.
Son nouveau bouquin, oui, donc
L'Empathie 2. L'Empathie 2.
Donc, il ne l'aura pas le 8.
Oui, mais il y a des fois, les auteurs...
Si c'est un éditeur, il ne l'aura pas.
Mais enfin, bref, est-ce qu'il aurait sa place chez
vous? Ah bah oui, il aurait sa place, bien sûr.
Voilà, ouais. Mais il ne s'est pas inscrit.
Bah non.
Voilà. Ah, il faut, si on ne s'inscrit pas, on ne vient pas.
Bah, le problème, c'est qu'on a trop de demandes, donc je prends les inscriptions au fur
d'accord.
et à mesure.
Bien, bien.
Et quand le nombre de tables est atteint...
Et donc, vous n'invitez personne?
Non.
Jamais?
Jamais.
Ah ouais.
Bah pour le moment, non.
Bah ouais.
Ça viendra peut-être,
bah, mais non. D'accord. Alors, le succès du Salon du Livre à Attignane ne se dément pas puisque vous avez clos les inscriptions il y a plus de 6 mois.
Mmh.
Sur quels critères donc, faites-vous votre choix? Bah oui, vous l'avez dit.
Il n'y a pas de choix.
Il n'y a pas de choix.
Il n'y a pas de choix.
Ouais, les premiers arrivés, premiers servis.
Voilà.
Ouais, après, c'est les gars du Nord moins que les gars de là. Vous faites des choix géographiques quand même? Non.
Disons, les gens de là sont souvent les premiers à s'inscrire.
Oui, oui.
Mais bon, j'ai toujours quelques places sous le coude, au cas où il y a vraiment des gens du coin qui arrivent, quoi.
Mm-hmm.
Voilà, tout simplement.
Alors par contre, avez-vous forcément lu les autrices et les auteurs que vous sélectionnez?
Non, c'est pas possible.
Pas possible?
Pas possible.
Vous n'avez pas un comité de lecture?
Non.
Non, à vous
non.
tout seul, mais bon.
Ouais. Voilà, oui,
c'est
mais
ça
bon...
Vous pourriez avoir un comité de lecture,
oui, tout à fait,
ça pourrait se faire.
Oui.
Ouais.
Mais il faudrait une association, vraiment, Salon du Livre.
Ouais.
Parce que là, les bénévoles qui font le boulot, si je puis dire, le jour du salon, c'est le bureau du sous des écoles.
Hein. Voilà.
Là, c'est...
Voilà. Et puis l'asso, c'est vous, en fait. Quoi.
Hein.
C'est ça?
Si vous voulez, oui. Mais
un
bon.
Peu? Non?
Ça fait plusieurs années que je demande d'avoir au moins quelqu'un qui donne la main pour le jour où je laisserai tomber.
Mm-hmm.
Parce que bon, là j'avance, pour faire ça jusqu'à 120 ans. Hein. J'aurais bien vivre jusqu'à 120 ans d'ailleurs, juste par curiosité.
Ouais.
Mais bon...
Ouais, mais vous êtes tout seul, c'est pas facile?
Ben oui.
Organiser, voilà.
Ben moi je m'occupe des auteurs, hein. Le reste je m'en occupe pas.
Mm-hmm. Voilà. Ouais. Y a personne d'autre qui veut s'occuper des auteurs?
Pour le moment, non.
Ah ouais. C'est hyper intéressant comme...
Ben oui, bien sûr.
Ah ouais.
Mais bon.
Bon ben restez comme vous êtes. Alors, parce que,
oui, hein oui. J'en ai l'intention, mais bon.
Bien. Alors, continuons. On retrouve donc les autrices et auteurs habituels et fidèles du Salon du Livre à Attignane. Cette année, pendant pas moins de 40 mois de nouvelles têtes. Et un renouveau des autrices et des auteurs de l'un. Alors, le livre attire toujours autant de monde, tant du côté de la lecture que de l'écriture. Pour des lectures, c'est sûr.
De la lecture, oui, il
oui.
n'y a pas... Surtout depuis le confinement, il y a eu des gens ont... Peut-être pas acheté, mais sont allés à la bibliothèque pour prendre des livres.
Il y a un renouveau de la lecture, je pense,
oui,
hein,
oui.
tout simplement.
Il y a un renouveau de la lecture.
Ouais, ouais. Et les écrivains, les écrivaines.
Les écrivains, il y a beaucoup de gens qui voudraient écrire, qui peuvent pas, tout simplement, ou qui savent pas. Mais moi, ce qui me gêne actuellement, c'est de voir fleurir, entre autres sur Facebook, des Star Academy d'auteurs reconnus qui montrent des trucs bidons, on ne peut pas dire autrement,
ah ouais.
en disant aux gens le livre que vous n'avez jamais pu écrire, on va vous aider à l'écrire, et dans 15 jours, vous serez reconnu,
ouais.
vous serez publié à 500 000 exemplaires.
Ouais.
Là, franchement, il faut arrêter de prendre des gens pour des jambons, quoi.
Ah ouais.
Là, c'est pas possible. Que des... Bon, je peux citer de noms pour pas
me
retrouver.
Non, cite pas de noms. Ça leur ferait de la pub, en plus.
Mais de toute façon, Facebook, ça arrive tous les jours, quoi. Et puis des auteurs... des auteurs et des auteurs re... Parce que j'aime pas le mot autrice. Des auteurs reconnus qui écrivent quand même pas mal, quoi.
Ah, et qui font de la pub pour ce genre de trucs.
Qui font de la pub pour ce genre de trucs et qui proposent des sessions.
Ah,
de...
Ouais, mais c'est leur métier après, c'est ça. Ils en vivent, c'est pour ça.
Les auteurs en question n'ont pas besoin de ce genre de trucs pour vivre.
Ah, ben vous croyez qu'un footballeur, il a besoin de 50 millions de plus?
Non.
Ben non, voilà.
Ben oui.
Voilà. Plus on en a, plus on en veut. Hein.
Oui.
Voilà. Allez, on retrouve également quelques autrices et auteurs ayant participé dimanche dernier au Festival du Polar. Chapolard à Chaponnet dans le Rhône.
Mmh.
Vous auriez matière, organisez-vous un salon du polar?
Ah oui.
Ouais.
Oui, je connais assez de, de polardier, si ouais, je puis dire, ouais, pour organiser un salon du polar. Ouais. J'ai un copain qui était justement à Chapolard, qui en avait organisé un l'année dernière en décembre, la deuxième quinzaine de décembre, dans un bouchon lyonnais.
Ah ouais.
On était une petite vingtaine. Ouais. Bon, c'est le bouchon de son fils, hein, donc ça risque rien. Ouais. Qui est quand même plus grand qu'un bouchon.
C'est qui cet auteur?
Roland Garin.
D'accord.
Qui sera à Tignan, donc dimanche. Ouais. Ça avait pas mal marché. Les gens étaient venus. Ça manquait d'une couverture de presse parce que bon. Ouais. C'est pas toujours évident.
Non.
Voilà. Et c'est vrai que ça serait possible d'en faire un. Mais je dirais même que ça serait même facile. Quoi.
Vous aviez eu l'idée déjà, l'envie de...
Ben, l'envie, je veux quand même pas squeezer Attignat.
Ouais.
Puis faire d'Attignat un salon, une salon que du polar. Ça serait me faire des copains dans le monde des auteurs.
Voilà.
Des copains. C'est gentil quand je dis ça.
Il y en a plein qui pourraient plus venir, c'est ça?
Bah oui, il y en a qui ne pourraient pas venir.
Il y a plein d'habitués qui ne viendraient plus. Qui ne pourraient plus venir. Non,
bah, ils ne pourraient pas venir à ce genre de choses, mais
ouais,
bon,
ouais,
c'est pour ça. Moi, le salon d'Attignat est généraliste. Il y a tout. Il y a des guides de voyage, il y a des bandes dessinées, il y a des bouquins pour enfants, il y a littérature générale.
C'est bien, c'est pas bien.
Si, c'est bien. Comme les visiteurs peuvent trouver quelque chose qui les intéresse sans problème. Quoi. Et généralement, ils trouvent, parce qu'il y en a beaucoup qui repartent avec...
Au moins un livre, quand même.
La pile à lire, quoi.
La pile à lire,
pile à lire.
Des fois, c'est une palette, hein, c'est plus une pile. Voilà. Bien. Eh ben, merci, Robert Ferrari, d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Eh ben, c'est avec grand plaisir, au moins une fois par an. Rappelons que vous avez sorti le 16 décembre 2022, donc votre avant-dernier livre, L'inconnu de la rue Mercière, et le 18 juillet 2023, votre dernier roman en date, La Madeleine des Clermont en savait trop, aux éditions Le Diamant de la Vouivre, et dans la collection Les Couloirs du Temps.
Voilà.
Je
précise, oui. Le Diamant de la Vouivre, c'est un nom de maison d'édition. Il n'y a que moi qui publie là-dedans. C'est-à-dire, je ne publie pas... Non, mais je ne publie pas de bouquins. Ce n'est pas une vraie maison d'édition. C'est pour avoir un nom de maison d'édition sur la couverture, voilà, que c'est demandé par les libraires.
D'accord.
Entre autres.
Voilà. Alors, où et comment peut-on se les procurer, sans oublier tous vos autres livres? Ils sont fort nombreux.
Eh bien, les libraires de Bourg. Librairie du théâtre, Librairie Montbarbon, il est chez Leclerc,
aussi,
la FNAC, pas chez Cultura parce qu'ils ne veulent pas de locaux. Ils sont au bar à création aussi. On en trouve un au musée de la soirée à Jugerieux.
C'est vrai.
Forcément.
C'est vrai.
Bientôt, je vais faire une descente sur Lyon, dans la librairie Style, librairie des Canuts, etc. Et on les trouve à Montréal,
et à Foscia,
et à Attignat.
Voilà. Sans oublier les bibliothèques et médiathèques de Bourg-en-Bresse et du coin, on vous y verra un jour en séance dédicace?
Ben, pourquoi pas. J'aime bien dédicacer dans une bibliothèque ou une médiathèque parce que les gens sont forcément intéressés. Ils viennent et on arrive à discuter de tout et de n'importe quoi. Puis du bouquin, bien sûr.
Ouais.
Mais bon, voilà.
Pour l'instant, on vous retrouvera bientôt quelque part en séance dédicace? Pour l'instant, vous n'avez pas de date?
Je suis le 15, c'est-à-dire une semaine après Attignat.
15 octobre.
Je suis au Salon du Livre, jumelé au Salon du Vin. À Fleury.
D'accord.
Voilà.
Bien.
Si on ne vend pas, on boira.
Voilà. Avec modération,
avec
bien
modération.
Évidemment.
Oui, parce qu'il faut rentrer après.
Bah oui. Pour plus d'informations, il y a le site internet, salon du livre 01.hautefort.com, puis les réseaux sociaux.
Haut et fort.
Oui, mais je dis comme ça.
Haut et fort,
oui. Oui, oui. Oui, c'est haut et fort, pardon.
Ouais.
Et l'on vous retrouvera donc en séance dédicace au Salon du Livre à Attignat, bien sûr, que vous organisez avec le Sous des Écoles à l'espace Salvaire à Attignat, le dimanche 8 octobre 2023, de 9h à 18h. L'entrée est gratuite et l'on pourra même se rafraîchir et se restaurer.
Tout à fait.
Eh bien, Robert Ferrari, bonne écriture, bon festival et à bientôt sur Radio B.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
prochaine.